Bienvenue dans l'heure du documentaire qui, cette semaine, s'attache aux migrations. En 2010, sur les docks se faisait le relais d'un miracle. Un maire prenait ses responsabilités vis-à-vis des Roms et autres gens du voyage. Cela nous avait valu des réactions comme celle de Régis Secher, qui nous écrivait « Le maire de cette commune agit en démocrate, respectueux des droits de l'homme et des principes affichés au fronton de nos mairies. La solidarité des habitants de sa commune, les propos de l'agent municipal, la réaction des personnes accueillies font de cette initiative ce qui devrait se faire partout ailleurs. Il s'agit tout simplement de dignité humaine. Est-ce que ce mot a encore un sens ? À Indre, cela semble concrètement le cas et ça fait chaud au cœur. » Pour moduler cet élan, depuis, le documentariste Jean-François Marquet nous a averti, je cite, « Pour information, le maire d'Indre, qui a donné en 2009 asile aux familles roms, n'a pas été réélu aux dernières municipales, entre autres pour cette raison. Depuis, la nouvelle municipalité s'est distinguée dans la région en ayant physiquement rendu impossible l'accès à la ville à d'autres roms expulsés d'un camp de la banlieue de Nantes. Les élus et quelques administrés s'étaient postés au rond-point autour de la commune. Les choses changent. »
Dragostea ce mi-a dat-o Dumnezeu se arată prin tine, dragul meu.
Le maire a été humain, Michel, le policier municipal a été humain. Le collectif, c'est un réseau d'énergie, d'humains et d'humanité, quoi. Les Roms, à leur niveau, sont des gens très humains, qui, une fois qu'on a lié des relations avec eux, vous donnent tout ce qu'ils peuvent pour s'intégrer, c'est ce qu'ils emploient comme terme. Je pense que c'est une grande leçon d'humanité, cette histoire, en fait.
Roms sur Loire, Nathalie Salle, Jean-François Marquet.
Ils sont arrivés à Inde, ils ont été accueillis. C'était une des premières fois où ils étaient, où on leur dit, voilà, vous avez le droit de vous installer, je ne vous expulserai pas. Mais c'est énorme, cette phrase avait une résonance pour eux, quelque chose, mais c'était incroyable, quoi. Qu'on leur dise, vous avez le droit de rester. Alors que jusqu'ici, on leur disait, vous foutez le camp, vous dégagez, on ne veut pas de vous.
C'est l'amour que nous vous avez pour votre visage. C'est l'amour parce que vous, vos combats pour nous et vous, vous travaillez pour nous. Vous prenez la force.
Bravo.
Ça va.
Bonjour Camilla. Comment ça va?
Ça va.
Avec combien de temps vous êtes là, vous?
Depuis 2004, je suis ici.
En France?
En France, oui, ici à Nantes.
Vous étiez à Chantenay, donc?
Oui, nous avons changé beaucoup de terrain. Ici, oui. C'est bien. Ici, c'est très bien pour nous.
Vous avez des enfants?
Oui.
Combien?
Deux, et nés ici en France.
D'accord. Vous avez appris le français où?
Moi, ici. Parce que quand je suis obligée pour essayer pour parler français, parce que comme ça, je peux me débrouiller tout seul. C'est bien parce que comme ça, je peux pour chercher du travail. Je peux pour me débrouiller quand j'ai un problème avec la santé, je vais aller à l'hôpital, je peux pour me débrouiller tout seul.
Et vous cherchez quoi comme travail?
Moi, ménage.
Et oui. Vous en faites?
Oui, j'ai un rendez-vous le 22, 7 mois. Octobre, avec une assistante sociale pour voir quand je vais travailler.
D'accord. Vous venez d'où en Roumanie? De quel
l'État Turnu Severin.
C'est dans quelle région?
Est.
C'est pas trop dur l'hiver? Question complètement idiote.
Ici, cet terrain, c'est bien pour nous parce que quand la pluie, d'exemple, nous pouvons rester à la caravane dedans parce que nous avons de l'électricité, nous payons tous les mois 15 euros.
Et vous souhaitez rester ici ou repartir chez vous en Roumanie?
Non, je vis ici. Parce que ça fait longtemps, ça fait à peu près 6 années que je suis ici. Et je suis habituée ici. Et j'aime ici en France parce qu'ici, c'est beaucoup de gens qui sont gentils. En Roumanie, c'est un petit peu le racisme. fait la différence avec les Roms et Roumains.
Et donc,
oui, oui, je préfère ici, je ne veux jamais en Roumanie.
En octobre 2009, des familles roms, dont celle de Camélia, sont expulsées de Nantes. Dominique Rimbourg est alors adjoint au maire à la sécurité.
L'expérience nantaise, enfin l'expérience de l'agglomération nantaise, a été mise à mal au cours de l'été 2008 par l'arrivée de nouveaux arrivants qui étaient attirés pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il y avait quand même un esprit qui était un esprit d'ouverture qui faisait que les Roms avaient le sentiment d'être mieux accueillis là qu'ailleurs, et en tout cas mieux accueillis là que dans leur pays d'origine, la Roumanie. Donc, il y a eu un regroupement à partir de deux origines. Premièrement, les expulsions qui ont été faites en Italie. Deuxièmement, des expulsions qui ont été faites en France, dans la région parisienne. Donc, sont arrivées plusieurs centaines de personnes qui se sont installées de façon sauvage, attirées donc par cette expérience nantaise, attirées par le fait que le Conseil général adoptait une politique très, très légaliste, c'est-à-dire venait en aide à tous les enfants, quelle que soit leur situation, et attirées par la circonstance que le CHU de Nantes offrait par ailleurs des soins de très grande qualité, parce qu'il y a ce qu'on appelle la PASS, c'est-à-dire la permanence d'accès aux soins et à la santé, qui est ouverte à tous les itinérants, mais à tous les gens qui sont sans droit. Donc il y a un savoir-faire nantais qui est assez spécifique en matière de soins, m'a-t-il semblé. Donc on s'est retrouvé avec de nombreuses installations sauvages, et à un moment donné, il y a eu des évacuations de terrain demandées à la justice, effectuées par la police. Aussi douloureux et difficile que ça a pu paraître, mais il y avait des situations qui pouvaient pas perdurer.
Alors, Jean-Luc Le Drenne, vous êtes maire d'Indre. Vous êtes encarté ou pas, vous ?
Non. Alors, moi, je ne suis pas encarté. Je suis sympathisant socialiste, mais élu en mars 2008 sur une liste citoyenne. Mais alors, la liste citoyenne est majoritaire. Sur 22, nous sommes 13. Et on a 9 élus de différents partis de gauche, PS, PC... Vert et UDB.
Alors comment ça s'est passé? Comment ils sont arrivés? Comment vous l'avez appris?
Alors en fait, ils sont arrivés le 30 octobre 2009, donc il y a bientôt un an. Hein. Donc ils ont été évacués du camp de Chantenay, sud-ouest de Nantes. En direction de l'ouest, donc la première ville en direction de l'ouest, c'est Saint-Herblain quand on longe la Loire, mais Indre venait juste après. Donc moi je l'ai appris pendant mes congés. Hein. J'étais en Normandie à l'époque à Évreux et sur les coups de 14h, je rentrais sur Indre et puis à 14h, il y a un homme de gendarmerie qui m'a appelé, il me dit « Monsieur le maire, il y a une cinquantaine de caravanes roms qui sont actuellement sur la route des Sables. » Donc je lui dis « Écoutez, je rentrais, j'arrive quoi. » Donc après, c'est mon directeur de cabinet qui a pris la suite le temps que j'arrive. Donc normalement, il devait se déplacer plus à l'ouest. Mais bon, vu l'état, il avait tusté des caravanes, il pouvait pas aller très très loin.
Oui, il y en a donc qui sont même restés sur la route, des caravanes.
Voilà, il y a quelques caravanes, je crois que ça doit être 2-3 caravanes, qui sont même pas arrivées à Inde, quoi. Donc en gros, qui n'ont pas fait 7 à 8 kilomètres, quoi. Donc on a négocié 15 caravanes. Bon, on a dit ok, 15 caravanes, il y en a eu 15 le soir. On est parti sur les coups de 23 heures. Et les autres caravanes étaient stationnées, mais dans des zones inondables. On était quand même là, en mois d'octobre. L'eau monte assez rapidement. C'est des prairies herbeuses, hein, donc l'eau monte assez facilement. Et en pleine nuit, ils sont sortis. Il y a une partie qui est partie sur Saint-Herblain et 35 caravanes qui sont venues rejoindre les autres. Et le matin... quand je suis allé en mairie, il y avait 50 caravanes au lieu de 15. Quoi.
Comment, au sein du conseil municipal, et peut-être au sein de l'agglomération, politiquement, on se retrouve avec ces Roms-là sur les bras? Il n'y a pas un grand moment de solitude après?
Il y a eu un grand, grand moment de solitude. Une solitude d'un point de vue politique, parce que d'un point de vue politique, effectivement, je me suis retrouvé un peu seul avec mon camarade de Sainte-Luce, quand même, qui a intégré une dizaine de familles au sein de l'agglo. Oui, effectivement, il y a eu un grand moment de solitude. Et aujourd'hui, c'est les... Faut le dire, c'est un moment, c'est les déclarations sécuritaires de M. Sarkozy qui ont permis la réouverture de ce débat politique. Et je pense que ça a mis chaque élu devant ses responsabilités aussi. Bon, on a la gestion des communes, et c'est prioritaire, mais il y a aussi des valeurs politiques qui nous réunissent. Donc, à un moment, voilà, il faut en débattre. On ne peut ne pas être tous d'accord, mais à un moment, il faut et puis trouver des solutions.
Jeanne.
Jeanne est sur le côté, oui.
Où ça?
C'est à Medalia. Medalia.
Ça va, Medalia?
Oui, ça va.
Jeanne arrivée.
N'est-ce Jeanne? Pas? Bonjour. Et Sophie, elle vient pas?
Si, Sophie devrait être là.
Sophie, oui, elle est là.
Elle est déjà arrivée?
Ah, bah, si, elle est là.
Ah, bah, oui, elle est là.
Bonjour.
Est-ce que je me trompe si vous dites que vous avez été fière de votre mère?
Pour moi, c'est enfin un politique qui va au bout de ses engagements et qui ne pense pas à son mandat 2013, si je ne me trompe pas. Il a agi en fonction de ses convictions personnelles. C'est vraiment quelqu'un qui a des tripes et qui met en exécution ses croyances et sa façon de voir, en oubliant un peu que ben, si ça lui coûtera un mandat, ben, tant pis, quoi. Mais au moins, il aura été honnête avec lui-même et avec ses convictions.
Comment son attitude a-t-elle été prise par les communes, voisines ou non? Qui, elle, n'avait pas du tout la même attitude avec les rendus.
Dans les réunions, il s'est fait un petit peu tirer à boulet rouge hein, par d'autres maires de l'agglo. Faut dire qu'en fait, il n'y a que deux maires qui accueillent des familles sur leur terrain. C'est la mairie de Sainte-Luce et c'est la mairie d'Indre. Et d'ailleurs, la mairie de Sainte-Luce est venue faire une réunion à la mairie d'Indre pour nous dire un petit peu comment avait commencé leur histoire et pour nous donner des conseils et des références. Par contre, il y a des collectifs d'habitants, alors ça c'est intéressant parce qu'il y a des collectifs d'habitants qui se sont créés. Donc maintenant, il y a un collectif d'habitants donc, à Sainte-Luce, un collectif d'habitants ici, un collectif d'habitants à Saint-Herblain où il y a eu beaucoup d'expulsions cet été, et un collectif d'habitants à Rosay parce qu'il y a eu ici beaucoup d'expulsions à Rosay. Donc des gens qui ont été un petit peu outrés par ce qui s'est passé, qui se sont dit on va essayer de les accueillir d'une autre façon, nous à notre niveau de citoyen.
Sophie, vous vous êtes engagée pourquoi et d'où vous venez, de quel milieu professionnel?
Alors moi, par mon travail, je travaille beaucoup à l'étranger, notamment en Afrique, en Amérique latine. Donc j'ai beaucoup voyagé. Dans chaque pays où j'ai travaillé, j'ai été accueillie très très chaleureusement. Donc j'ai envie que dans mon pays, on accueille les gens aussi de façon chaleureuse. Et puis je suis militante à la CIMAD, donc pour une association de défense des droits de l'homme. Et j'estime que vu l'évolution, enfin on parle de mondialisation, on parle de du monde village, et je pense que de plus en plus, il faut apprendre à nos enfants à vivre dans un monde de solidarité, en faisant attention à l'autre, en respectant l'autre, quel qu'il soit.
Jeanne, vous venez de quel milieu? Vous faites quoi?
Moi, je suis indraise, je travaille dans le domaine social.
Donc Jeanne et Sophie, vous êtes parmi les fondatrices de ce collectif. Pourquoi il s'appelle Romsi?
Fondatrice de ce collectif, association maintenant, oui, mais ça a quand même été impulsé par la mairie au départ. Romsi, ça veut dire quoi? Alors, Romsi, c'est un mot comme notre collectif au départ. On s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut que ça ait du sens et en même temps, il faut qu'il y a Rome dedans. Donc, on a décliné, en fait, après, le mot Rome en se disant, Rome, c'est quoi pour nous? Donc, le R, c'est rencontre. Le O, c'est ouverture. Le M, je crois que c'est métissage. Le S, solidarité. Et le I, c'est Indre. Les Roms d'Indre ont aussi apporté tout ça. Enfin, les Roms, quand ils sont arrivés à Indre, ont aussi apporté tout ça.
Alors, Jean-Luc Le Drenne, comment ça passe au sein du conseil municipal?
Bon, alors la plénière, donc la majorité, donc a pris 4 jours après la décision de ne pas les rejeter sur les routes. On était quand même à l'approche de l'hiver. Il y a eu ce côté humaniste aussi, mais ce côté politique, dire maintenant il faut qu'on réfléchisse, quoi. Est-ce que demain le fait de les rejeter ailleurs va résoudre le problème de ces populations qui sont quand même des Européens, qui ont droit effectivement à la libre circulation, ça je l'entends, mais ils peuvent pas circuler sans arrêt. À un moment, il faut qu'ils se posent, ces gens-là. Donc aujourd'hui, alors de toute façon, ils n'ont pas de terrain d'accueil. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un schéma départemental comme pour les gens du voyage. Enfin, il n'y a rien de proposé aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? On se pose les questions de fond, quoi. Et c'est vrai qu'on peut dire, légalement, ils n'ont pas d'autorisation pour s'arrêter là. Alors, c'est vrai que quand on a pris cette décision, nous étions persuadés qu'ils étaient sur le territoire de la commune. Mais en fait, il s'est avéré qu'il y avait un acte notarié qui n'avait pas été signé depuis quelques années. Et en fait, ils étaient sur le territoire de grande paroisse Sauferti.
Qui est une filiale de Total.
Qui est une filiale de Total, oui. Et donc voilà, mais la première décision de la majorité, c'était en tout état de cause. Ils étaient sur notre territoire. Donc on s'est dit, on y va, on continue.
Après, il faut informer la population. Comment voilà, vous y prenez, là?
Eh ben, donc on a décidé de convoquer un conseil municipal extraordinaire où il y avait de très nombreux indrés quand même, puisqu'il y avait 300 personnes.
Oui, donc là, c'est pas dans la salle municipale que ça se fait.
On l'a pas fait dans la salle municipale. Pour l'occasion, on l'a fait dans un gymnase et bien nous en a pris parce que le gymnase était très bien rempli, avec des gens. Alors, moi, je pense, un tiers qui était franchement contre, un tiers plutôt favorable à l'intégration de ces familles roms, et puis un tiers de personnes qui se posaient beaucoup de questions, quoi, qui connaissaient pas obligatoirement la communauté rom, comme nous, hein, comme nous en tant qu'élus, on les connaissait pas, on avait que des on-dit, des rumeurs.
Réunion publique, janvier 2010.
On vous écoute, monsieur. Oui, alors, question simple, y a-t-il une ligne budgétaire prévue au niveau de la mairie? Et de combien est-elle?
Monsieur le maire? Aucune.
Monsieur. Je voudrais vous parler de la sécurité. À l'heure actuelle, où ils sont pauvres en sécurité. S'il y a le feu en pleine nuit, comment on fait? Parce que là, avec les caravanes, à côté, il y a la ligne haute tension. On ne peut pas arroser. S'il y a le feu en pleine nuit, ils vont s'éparpiller partout. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a la Loire. Après, il y a les trous d'eau. Alors, comment les récupérer, ces gens-là?
Alors, sur la question de la sécurité, monsieur le maire.
Aujourd'hui, on a 75% de zones inondables sur la commune. On n'a aucun terrain disponible et dans la mairie et propriétaire.
Michel, vous voulez éventuellement donner une réponse?
Bonsoir. Donc, mon rôle, moi, c'est d'appuyer dans mes patrouilles à passage quotidien. Ah, donc, chaque jour, je passe les voir. Pour des raisons de tranquillité, de salubrité, hein, de sécurité aussi. Effectivement, la problématique, c'est ce qu'on a vu sur le diaporama tout à l'heure, le chauffage avec le bois à l'intérieur des caravanes. Malheureusement, on n'a pas de solution, hein, puisqu'on arrive à une période hivernale. Donc on est tous conscients du problème, eux y compris. Hein, donc ils prennent un certain nombre de précautions pour que les caravanes ne brûlent pas. Le dispositif sur une grande rangée, on peut pas le faire autrement, on peut pas les éloigner les uns des autres parce que à côté c'est du sable et c'est mouvant. Donc ils sont sur un chemin qui est stabilisé. Les pompiers peuvent accéder, hein, tous les services de sécurité peuvent accéder sur le site. Maintenant c'est vrai que le feu peut se propager d'une caravane à une autre, c'est la problématique. Mais sincèrement, il n'y a pas de solution.
Bonjour, allez-y, entrez. Vous êtes seul ici, policier municipal,
ouais.
Pour 3500 habitants, et arrive donc une cinquantaine de caravanes. Ça fait quoi d'abord?
Ça fait quoi? Moi, en tant que policier municipal, il y a une implantation de caravanes, quelle qu'elle soit, c'est le pouvoir de police du maire qui. Il faut le gérer. Il y a des gens qui sont là, on ignore pour quelle durée, et. Si on veut prendre contact avec eux, puis si on veut que ça se passe bien, gérer au quotidien après.
Mmh. Vous connaissiez les Roms ou vous avez une expérience avec des gens du voyage?
Alors, j'ai une expérience avec les gens du voyage, puisque au tout début de ma carrière, j'ai commencé par. Dès qu'il y avait des implantations de gens du voyage, il fallait aller sur les lieux. Et puis après, il y a eu la création d'aires d'accueil. sur l'agglomération nantaise, et j'étais le premier policier municipal à gérer une aire d'accueil sans surveillance, c'est-à-dire les mini-structures. Et j'ai proposé d'agir sur cette situation comme si c'était une aire d'accueil, tenter de la gérer de la même manière, quel que soit le temps de stationnement. Et puis voilà, quoi. Et puis après, il y a aussi le fait du passage quotidien, ça c'est important, puisqu'il faut instaurer une confiance réciproque, et puis établir un statut, et gérer tous les accords qu'il y a sur le maire, moi-même, la brigade de gendarmerie de Couëron, et puis aussi, monsieur le maire a fait en sorte que tout le monde associatif soit organisé. Et à partir de là, on n'a pas de problème particulier. Ce qui est important, je pense que c'était aussi la présence au quotidien d'un uniforme. Quand je m'absente, ce sont les gendarmes qui, deux ou trois fois dans la semaine, me relaient sur le campement, en termes de passage.
Ça va bien.
Bonjour.
Bah oui, Rémi. Je sais. Rami.
On n'a rien fait.
Qu'est-ce que j'allais dire Souci au quotidien, là, dans le lotissement, là, juste dans les rues, là. Il faut dire aux gens de marcher sur le trottoir. Beaucoup de gens marchent sur la rue et il y en a qui ont peur de renverser les enfants. Il faut qu'ils marchent sur le trottoir. Tu sais ce que c'est le trottoir?
Oui,
ça serait bien que tu le dises à tout le monde. Hein? Non, mais il faut éviter ça. Non, mais c'est pour la sécurité des enfants. Hein. C'est pas... Les gens m'ont averti pour éviter qu'il y ait un accident ou autre chose. Quoi. Donc je compte sur toi. Hein. Hein? Si dans 48 heures, je les vois encore marcher sur la route.
On va faire une réunion ce soir parce qu'ils sont pas tous ici. On va arriver dans une heure. Après, on peut en faire une réunion. Qu'est-ce qui se passe?
Et la population, le voisinage, il l'a pris comment et comment vous l'avez ressenti?
Comme toute implantation de caravane, c'est jamais simple. Hein. Vous avez aussi des gens qui sont hostiles à toute présence de caravane, quelle que soit la forme. Mais je crois que c'est plus par méconnaissance pour certains d'entre eux que par idéologie. Donc après, il suffit d'expliquer, de dialoguer. Là aussi, il faut prendre en compte toutes les doléances de tout le monde et puis tenter de trouver des solutions. Dès lors qu'il y a des débordements sur le campement, j'essaie de gérer, de dialoguer. Et puis au besoin, monsieur le maire m'accompagne. Hein, et puis, étant donné que c'est le maire qui se déplace, les choses, on passe à un degré supérieur. Quoi.
C'était quel type de problème ?
La salubrité, la mendicité parfois sur le marché, ou la cueillette de fruits dans des jardins pendant cet été par exemple, c'est pas des gros problèmes, c'est des problèmes qui peuvent être concernés finalement même de jeunes ados ou autres de la population ordinaire.
Oui, la délinquance n'a pas augmenté du tout depuis.
Non, on n'a pas de fait de délinquance. Tels qu'on peut les imaginer, propres à cette communauté. Et il y a aussi quelque chose, en ce qui concerne, c'est quand même une importante communauté, on n'a pas d'actes liés à des actes mafieux ou de réseaux organisés ou autres. Voilà. On peut avoir des actes individuels, mais on n'a pas d'organisation telle qu'on peut le voir dans d'autres secteurs ou d'autres régions. Quoi. Ça, c'est important. Alors peut-être qu'il y a aussi cet effet dissuasif de passage au quotidien, probablement. Mais.
Et ça leur fait peur ou ça les rassure qu'on s'occupe d'eux?
Ça les rassure. Contrairement aux idées reçues, dans de nombreux cas, ça les rassure. Parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que le mot police, il y a aussi le côté municipal des choses, et puis je crois qu'après c'est humain, quoi, le rapport humain, le contact, puis la connaissance. La connaissance des uns et des autres. Hein. Eux apprennent à connaître ce que c'est le policier municipal sur une commune. Moi, j'apprends à connaître comment fonctionne la communauté rome. Et au bout de 9 mois, je sais comment ça fonctionne.
On va peut-être y aller alors, du coup, sur le
avec plaisir.
Ça va?
Donc là, on sort de la mairie. Donc vous faites ça tous les jours?
Tous les jours, jamais la même heure, jamais le matin, l'après-midi, des fois le soir. Des fois, ça peut être à 6h le matin quand j'en bosse sur le marché le dimanche matin. Ça peut être à 13h aussi le dimanche, quand j'ai fini mon marché.
Et donc vous disiez que ça les rassure plutôt?
Oui, quand il y a quelque chose qui se passe à proximité ou sur le camp avec un élément extérieur au camp, tout de suite je suis au courant. Le matin, quand j'arrive, ils me le disent.
Et qu'est-ce que vous y faites en général? C'est de la routine? C'est vous inspectez les caravanes ou...
Ah non, non, non. Je m'assure quand même de la salubrité du camp. J'instaure le relationnel, je suis à leur écoute. Je m'inquiète aussi pourquoi certains enfants ne sont pas à l'école quand j'en vois qu'ils traînent alors qu'il y a de la scolarité. Ils m'expliquent le pourquoi. Mais en général, ils sont très vigilants à ce que leurs enfants aillent à l'école. Hein. Ils ont vraiment un motif quand leurs enfants ne sont pas scolarisés. Quoi.
On voit bien que les voitures, c'est pas les mêmes que sur les gens du voyage non plus. Hein.
Oh, bah, ils font en fonction de leurs moyens. Hein.
Donc le maire avait décidé de leur mettre l'alimentation électrique et du coup ils payent tous les mois 15€ chaque famille. Et donc c'est très organisé puisque moi je voulais pas qu'on passe avec le régisseur de caravane en caravane. Donc ils ont fait un listing de toutes les familles, j'ai vérifié qu'il y avait bien toutes les familles. Et du coup c'est eux qui encaissent et moi je viens avec le régisseur hein, et ils nous donnent les sous et tout le monde paye dans les délais. Hein. On fait ça en général le 15 du mois. Alors je viens sur place pour ça, mais par contre, pour ceux qui mangent à la cantine, donc je les préviens, je préviens les femmes, hein, elles passent le message et elles vont payer comme les autres administrés au service scolaire. Et ils sont tous à jour de leur cantine et des frais d'alimentation électrique. Il n'y a aucun impayé. Là, c'est pareil, il a été prévu plutôt qu'il s'installe sur tout l'ensemble du terrain, ce que souhaitait pas le propriétaire du terrain, puisque ici c'est un lieu privé. Mmh. Donc moi je leur ai demandé de s'installer comme si c'était une rue, et pour moi c'était plus facile de gérer aussi la salubrité et la sécurité du camp.
D'accord. Hein? Oui, donc c'est vrai que ça ressemble à une rue, oui, effectivement.
Voilà. Et donc avec eux, on avait vu de façon à ce qu'il y ait le passage d'un véhicule lourd. Les ambulances et tout ça peuvent accéder si les gars le souhaitent. Ah bon, les caravanes sont vétustes, hein, comme vous pouvez le voir, c'est des caravanes de récupération. On a souhaité qu'il n'y ait pas de construction, comme sur les autres endroits, de façon à ce que tout soit visible. Et puis que c'est un aspect bah, moins bidonville, quoi. Après, tout est relatif, mais je veux dire, on ne peut pas les laisser faire n'importe quoi. Ils ont eu l'autorisation de construire ce qu'on appelle l'église, qui se trouve là-bas, vous avez l'église. Et donc c'est aussi pour ça que parfois le week-end on a plus de monde. Puisqu'on a des gens de la communauté rom qui sont installés sur d'autres camps extérieurs et qui viennent ici puisqu'il y a un pasteur. Hein, donc où parfois c'est des pasteurs de l'extérieur qui viennent. Et donc le dimanche, il y a aussi une cérémonie ou voire parfois le vendredi soir ou le samedi soir. Ça va?
Me dis s'il te plaît, t'as les clés de l'église?
Oui, oui.
T'as la clé?
C'est là à côté des...
Tu peux, oui. Tu peux l'ouvrir s'il te plaît?
Oui.
Merci. Voilà, comme ça, c'est bien. Merci.
Non, quand c'est trop fort, je leur dis parce que des fois, ça porte. Comme il n'y a pas de... Donc, les voisins sont susceptibles d'entendre. Même si aujourd'hui, on est dans une
cet été, ça pouvait être gênant. Donc je leur donne l'habitude d'écouter la musique raisonnablement. Ça fait aussi partie de l'apprentissage, hein, parce qu'un jour, peut-être que certains d'entre eux iront dans un appartement. Ou... Voilà, il faut aussi qu'ils sachent ça. Quoi.
Tu peux la décrire, cette église, parce qu'elle ne ressemble pas du tout à une église.
Ah, 50 mètres carrés environ. Fait avec des matériaux de récupération, hein, ils avaient demandé l'autorisation à monsieur le maire, hein, c'est une tolérance hein, seulement. Hein. Puis ils célèbrent les offices. Ah, ils sont, je pense qu'ils sont évangélistes. Voilà, donc vous voyez, ils se sont installés. La batterie, le synthétiseur, et puis ils font leur prêche. Hein, et ça nous sert aussi de salle de réunion. D'accord. Quand monsieur le maire se déplace pour leur dire des choses importantes, quand il y a des intempéries, on fait ça ici.
D'accord.
Hein, on les prévient avant, je leur dis, monsieur le maire va venir tel jour, on a des choses à vous dire, et puis on fait ça dans ce bâtiment.
Tout ondulé, et il n'est pas très étanche.
Ah bah peut-être, mais bon, ça leur sert bien quand même.
Ouais.
Hein, ils ont installé un minimum de confort. Bon, voilà quoi. C'est aussi... leur permettre d'avoir leur pratique, hein, il ne s'agit pas d'exclure, il faut tout prendre en compte. Quoi.
Ouais, ouais. Hein. Liberté de culte.
Voilà, tout à fait.
Pardon.
Ça sert aussi à trier les vêtements l'hiver et tout ça.
Ah oui.
Hein. C'est vrai que tous les frigos sont dehors.
Hein. Ouais, bah ouais. Oh, ils sont pas tous branchés. Hein. Ça m'arrive d'en débrancher aussi, parce que quand je trouve que ça risque de faire fondre les installations électriques, donc je les préviens, ils vont débrancher et on coupe le fil. Parfois, ils tuent le cochon aussi, le mouton. Mirella, ça va? T'as pas d'école aujourd'hui, hein?
Vous les connaissez tous par leur prénom?
Oui.
Impressionnant.
Je me suis toujours attaché, même avec les gens du voyage, à tous les connaître par leur prénom et leur nom. Parce que d'abord, je trouve que ça met de la convivialité. Au moins, je suis identifié par eux. Mm-hmm. On m'appelle Michel. Ça va?
Oui, ça va.
Et j'essaye de savoir qui est la femme de qui et qui est l'homme de qui. Mm-hmm. Savoir les enfants. Et c'est super important pour la proximité. Et les échanges après. Mm-hmm. C'est important. Même, je fais la même chose avec les administrés.
Ah bah toi.
Bonjour.
Comme vous pouvez le voir, le camp est propre.
Le camp est propre, oui.
Le camp est propre, hein. C'est nettoyé régulièrement. On n'a pas, d'un point de vue salubrité, on ne peut pas dire que... Mais bon, les conditions dans lesquelles ils vivent... Bonjour.
Bonjour.
Alors je ne sais pas si on entend dans le micro, mais le primar, c'est le maire, hein. En roumain.
D'accord.
Ah oui, donc, voilà des conditions hein, quand même difficiles parce que bon bah voilà ils vivent à 5-6 dans une caravane et en fait il n'y a qu'une pièce quoi, il n'y a qu'un lieu de vie, quoi, il n'y a aucune séparation. Quoi.
Et ils ont un point d'eau où?
Alors c'est une borne incendie là qui est juste à côté, donc à 50 mètres du camp quoi, à peu près. Quoi.
Vous y alliez tous les jours au début, j'imagine.
Ouais. Pratiquement. Là, un peu moins, parce que le policier municipal s'est emparé du quotidien, quoi. Mais au départ...
Quel problème il a eu à gérer en priorité?
Le problème de salubrité, parce que, bon, ouais. C'est pas simplement le fait de mettre un conteneur à poubelle à côté. Après, il faut leur faire comprendre. Les sacs, faut les mettre. Voilà, c'était pas quelque chose pour eux de spontané et d'acquis, quoi.
On voit qu'il y a du soleil, du vent, donc il y a du linge qui sèche. Ça doit être beaucoup plus problématique l'hiver quand il pleut.
De toute façon, c'est simple. Hein. Ils jettent le linge hein, l'hiver.
C'est hein. Ça, ouais.
Quand vous n'avez pas de moyen de séchage, vous jetez. Hein.
Bon, ça va autrement? Comment ça faire froid hein?
Un petit peu. Là, ça va.
Ouais. Ça va. Pas de problème d'électricité? Oui. Ça marche, tout fonctionne?
Oui, ça va. Là, ça va. Ça marche.
Ouais, bah, c'est bien. Ouais.
Le maire, bah, pour les Roms, c'est quelqu'un qui représente beaucoup pour eux, quoi.
C'est lui le chef de tribu un peu.
Bah, un petit peu, oui. Oui.
C'est le chef de village.
Raccourci. Donc oui, donc pour eux, le fait qu'ils leur aient dit ben, il y a bientôt un an, vous pouvez rester là, je ne vous expulserai pas, ça a été quelque chose de très très fort et ils lui rendent bien, je pense.
Sophie, vous donnez combien de votre temps par semaine à ce camp?
C'est variable, quoi, parce que bon, il y a les démarches qu'on fait donc pour les individus, donc ça c'est du temps à la maison qu'on compte pas, quoi. Ça peut être, je dirais, un jour à un jour et demi, quoi. Je viens tous les deux jours sur le terrain à peu près. Et puis après, il y a tout le travail de recherche. Ça dépend si on accompagne des femmes. Là, il y a un accompagnement à faire à la CAF cette semaine. Il y a, voilà, donc en gros, un jour à un jour et demi maximum, quoi. J'ai de la chance d'avoir un travail qui me permet d'avoir du temps disponible et d'avoir un petit peu d'être un petit peu le patron de mes propres horaires.
Racontez-moi la dynamique du début.
On était en hiver déjà, hein. Donc oui. Le maire a déjà accepté. D'accueillir les 47 familles qui étaient vraiment poussées de Nantes, de Chantenay. Et donc à partir de ce moment-là, les familles sont arrivées là. Et c'est vrai que quand on est passé là, on s'est dit on peut pas laisser 47 familles dans ces conditions, quoi. Donc on va essayer de leur donner un petit peu d'humanité et de chaleur. Donc du coup, ça a commencé, je crois, si je ne me trompe pas, Jeanne, mais ça a été commencé par les collectes de vêtements.
Oui, les collectes de vêtements.
Et là, il y a une impulsion, un élan de solidarité assez phénoménal, puisque c'était que du bouche à oreille. Et on a eu énormément de vêtements, donc c'était l'urgence, hein. Les couvertures, les vêtements pour passer l'hiver. Et puis après, petit à petit, s'est formé en fait quatre pôles. Hein. Il y avait un pôle, parce que pour nous, ça avait du sens d'accueillir les familles sur le terrain que s'il y avait un combat politique à côté. Donc il y a eu quatre pôles, il y a eu un pôle matériel, donc matériel, vêtements, douche, il y a eu un pôle éducation à la citoyenneté, il y a eu un pôle politique, et puis il y a eu un pôle droits sociaux, scolarité et autres. Et le pôle politique, c'était en fait de faire des émules du projet de Inde d'accueillir des familles auprès des autres municipalités. Donc c'est-à-dire que, en gros... Hein,
donc vous visitez d'autres municipalités.
Voilà. En gros, il y a 24 municipalités sur l'agglomération nantaise. Si chaque commune accueille 4 à 5 familles sur son territoire, ben le problème d'accueil des Roms sera résolu. Sachant qu'il ne faut pas confondre Roms et gens du voyage. C'est deux problématiques complètement différentes, parce que c'est ce qu'on nous renvoie souvent. Et donc nous, c'est notre combat. Et là, on a un combat plus local maintenant au niveau d'Indre. C'est-à-dire qu'il y a 47 familles ici. Il y en a 3 qui vont rester sur Indre. Qu'est-ce qu'on va faire des 44 autres familles? Donc notre vœu, notre souhait, c'est que ces familles ne soient pas expulsées, mais partent dans des communes qui accueillent. Voilà.
D'accord.
Alors, je ne sais pas pour l'éducation à la citoyenneté,
oui,
Jeanne peut peut-être
quoi,
parler.
L'éducation à la citoyenneté.
Pour moi, l'éducation à la citoyenneté, c'est faire comprendre à la population d'Indre et aux populations de Nantes Métropole la culture rome et aussi tout ce travail qu'on peut faire avec les Roms et comment ils vivent et leur souhait. C'est faire comprendre que la vie n'est pas rose pour eux, mais que pour eux aussi, il y a des droits, il y a des devoirs. Et l'inverse, les familles indraises, comprendre les droits de chacun.
En plus, on a souvent des fausses idées, parce qu'on a l'impression que quand les 47 familles sont arrivées, on se dit c'est une grande famille, quoi. Il y a des habitudes communautaires, des habitudes collectives. Et en fait, ce sont 47 familles, des entités, quoi. Donc il n'y a pas un chef de clan, il n'y a pas un chef de groupe. Il y a des petits groupes, hein, parce que on retrouve l'oncle, la tante, mais c'est 3 ou 4 familles ensemble, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est la survie pour son groupe de famille, quoi, mais pas pour le terrain. Et donc là, au début, ça nous a beaucoup... On s'est trompé beaucoup sur la façon de faire, parce qu'on pensait, un tas de bois, ils vont se partager, puisqu'ils se connaissent tous, il va y avoir une certaine solidarité. Mais en fait, non, c'est la survie pour un groupe de famille.
Qu'est-ce que vous faites là?
Eh bien, c'est mercredi. Donc, le mercredi, c'est la journée où nous ouvrons. La municipalité nous a permis d'ouvrir le gymnase pour les douches. Donc, les familles viennent se doucher. Et puis, on a eu l'idée de de profiter de ce temps pour les aider quand ils viennent chercher des vêtements, puisque là, en ce moment, on est aussi dans l'organisation de la collecte de vêtements, les aider à agrandir ou à rapetisser les vêtements.
Ici.
Celui-là ?
Ce grand.
Alors, on va refaire celui-là. Je vais mettre une épingle encore. Attendez.
Ici.
Il est trop grand.
Trop gros.
Trop grand, d'accord. Mais vous allez m'aider à le découdre, vous. Je ne sais pas s'il a bien compris, mais je lui ferai faire, hein, parce que c'est bien qu'il le fasse. Voilà, je sais bien qu'il le fasse, c'est-à-dire qu'après, le projet évoluera, parce que l'intérêt, c'est pas de faire pour aussi. C'est bon, là, on les dépanne et tout, mais après, ça va être de faire avec. C'est toujours quand même mieux, je pense, de les amener à faire les choses eux-mêmes. Donc voilà, le projet là, c'est un peu un dépannage, c'est une manière de rentrer en relation, c'est se connaître, c'est se rendre service. Mais il faudrait que ça évolue vers plus d'autonomie. Il ne faut pas que ça devienne un dû, il faut que ça soit de l'échange. Donc voilà, on est dans ce travail-là d'accompagnement avec eux. Alors, monsieur, il a dit la ceinture. Ah, voilà du monde.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour,
monsieur.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour. C'est chaud là ou de l'eau?
Alors, oui, c'est chaud.
C'est chaud.
Vous laissez couler un peu, mais c'est chaud.
Ouais.
Vous n'avez pas de serviette?
Non, il n'y a pas.
Non. Alors, on va faire ça.
Chantal, vous faites partie du collectif Romsey?
Alors oui, je fais partie du collectif dès le début. Hein, dès le début, nous sommes plusieurs à avoir ressenti la nécessité d'organiser un collectif de soutien. Et puis nous, d'aller à la rencontre. Je ne vais pas dire dans un projet d'intégration, parce que ce mot, il est tellement galvaudé, mais dans un projet d'accueil et d'accompagnement. Donc là, ça fait maintenant un an qu'ils sont là. Donc l'année dernière, on a très vite géré la scolarisation des gamins, la santé. Voilà, on a commencé les vêtements, récupérer des vêtements. Voilà, et là, on est dans un autre travail, un projet d'accompagnement scolaire, d'aide aux enfants. Voilà, on est dans des projets de travail avec les femmes, des heures de ménage, voilà. Bon.
Mais vous venez de quelle profession, vous ?
Alors moi, je viens de la Seine-Saint-Denis, j'ai toujours travaillé par choix dans les quartiers en difficulté de Seine-Saint-Denis. J'y ai passé 35 ans de ma vie, mais je ne connaissais pas ce public. Les enfants du voyage, j'en avais très peu dans les classes, ils ne restaient pas. Donc c'est un public que je ne connaissais pas, et je peux dire que pour moi, c'est un énorme travail sur moi d'aller vers et de faire cet accueil, parce que je crois que j'ai eu des, non pas des réticences, mais des résistances qui viennent peut-être de ma culture, qu'on se traîne comme ça et qu'on a beau avoir des grandes idées humanistes, quand on est vraiment confronté à, et ben moi je dis que j'ai eu quelques difficultés. Ça n'a pas été facile d'aller dans le camp, ça n'a pas été facile même d'être seule aux douches. Il y avait comme ça des peurs, des vieux fantasmes, des machins, et je trouve que ça me met au travail, et je suis très contente parce que j'apprends beaucoup. C'est sûrement la première fois que je rencontre ce sentiment-là, parce que j'ai quand même vécu au milieu de situations difficiles. Mais là, il y avait un effet de nombre. Et puis petit à petit, en allant avec d'autres, on rentre dans les caravanes, on voit que c'est nettoyé, que c'est propre, que le camp il est balayé, qu'il y a de l'organisation qui est faite. Et voilà, on accepte de voir comment se fait la cuisine, pouvoir. Mais moi, j'avais jamais été confrontée à ça, et ça m'a demandé du temps. Voilà, ça m'a demandé du temps, et j'ose le dire.
Le temps, ça prend là.
Comment ça va? Je te demande ça parce que j'ai entendu que Jeanne venait t'aider à t'organiser dans ton travail. Tu es en quelle classe cette année ?
Cinquième.
Cinquième. Donc l'année dernière, tu étais en ?
En sixième.
En sixième. Donc tu es montée de classe. Et alors l'aide que t'apporte Jeanne, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que vous faites ensemble quand tu travailles avec Jeanne ?
Mais je fais mes maths, je fais le français, histoire, géo, je fais technologie.
Technologie, d'accord. Et donc Jeanne vient le soir t'aider. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est important qu'on t'aide ?
Parce que c'est que je fais mes travaux pour qu'ils donnent des notes, pour que je travaille bien.
D'accord. Et tu as à quoi ça va te servir de bien travailler ?
Pour rester en France. Je ne veux pas partir en Roumanie.
Tu ne veux pas partir en
Roumanie ? Parce que j'aime pas la Roumanie ici. J'aime bien parce que le maire, il est trop gentil avec nous. Il travaille pour nous. Et le policier municipal aussi, il est trop gentil avec nous. D'accord. Il ne nous a pas dit pour partir.
Bah, écoute, Alinéa, tu vas continuer ton année scolaire. Là, tes notes sont acceptables ou...
Oui, c'est bon, mes notes...
D'accord. Et au niveau activité, tu fais des choses sur Inde ? Il y a des choses que tu aimerais faire ? Du sport, de la danse, des choses...
Oui, c'est ça que je voulais faire, de la danse avec les filles.
D'accord, et tu...
Et je verrai moi, Mireille, l'autre, mes amis, et si vous pouvez me montrer où c'est le danse pour que vous nous serez pour danser.
D'accord, on réfléchit à tout ça. Hein. Tu sais que le problème qui est là, c'est un problème réel, c'est l'argent, c'est que ton papa et ta maman...
Mon papa, il est mort.
Ton papa est mort, donc tu es seule avec ta maman... Les activités sur
Inde. Et avec mon frère qui est malvoyant, il ne voit pas trop bien.
Ta famille a besoin de toi.
Ma mère qui est malade avec le cœur.
Oui, je sais ça. Ta maman a des gros soucis de santé. Mm. Bon, et toi, tu es courageuse. Allez, continue à faire le mieux possible et à profiter
Merci.
De tout ça. À bientôt, à la semaine prochaine, Alina. Au revoir.
Au revoir.
Depuis un an que les Roms sont là, il y a des gens qui ont changé leur regard sur les familles Roms. Et notamment par le biais des enfants, puisque l'année dernière, il y avait une médiatrice sur une des écoles d'Inde qui nous disait que l'insulte dans la cour de récréation, c'était « toi, t'as pas de copains Roms ». Alors qu'au début, quand les familles ont su qu'il y avait des petits Roms qui allaient arriver dans les écoles, il y en a même qui ont failli retirer leurs enfants.
Bonjour, tout d'abord, merci d'être venu.
Réunion parents-prof à l'école d'Indre.
Donc,
avec plaisir, on dit chez nous.
Ah, d'accord, bah. C'est partagé. Alors, moi, je m'appelle Sophie Imbert, je suis la directrice de l'école.
Et il y a aussi un directeur à Ascoli.
J'ai aussi la classe de CP, cette classe.
Il y a une classe de CP, cette classe à Chastakas.
Avant de passer au reste, je voudrais dire que les enfants qu'on avait déjà l'année dernière dans l'école...
Înainte să treacă la altă idee, vreau să vă spun că copiii care aveau la școală anul trecut...
ont fait beaucoup de progrès...
au făcut foarte multe progrese...
dans leur manière de parler le français...
În felul în care au învățat limba franceză...
mais aussi dans leur comportement...
dar mai ales în ceea ce privește felul de a se comporta...
ce sont devenus des vrais élèves...
adevărați elevi...
Et enfin, maintenant, ils sont vraiment très, très fiers et très demandeurs
Acum
du travail.
Sunt foarte mândri de progresele care le-au făcut și cer întotdeauna să participe la activități și să fie solicitați ca și ceilalți.
Ils sont très contents de travailler.
Sunt foarte mulțumiți că sunt utili la ceva, deci lucrează la școală.
Donc, nous aussi, on dit merci aux mamans.
Iar noi vă mulțumim.
Parce que c'est toujours avec des enfants qui parlent français ou avec des enfants qui parlent pas français, c'est toujours les parents et l'école ensemble.
Lucrând împreună, pe de-o parte dumneavoastră, pe de-altă parte școala, deci colaborând în felul ăsta, puteți să vă ajutați copiii și se vede din felul cum copiii sunt interesați să vină și să...
Les Roms, ce sont des communautaires, donc des citoyens européens, mais de deuxième classe. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont arrivés en 2007 dans la communauté européenne, donc jusqu'en 2014. Si un employeur veut employer un citoyen rom, eh ben, il doit payer une taxe. Et en plus, il faut que ce soit un temps plein. Pour les temps partiels, c'est déjà plus difficile. Donc ils vont de contrat saisonnier en contrat saisonnier pour avoir des autorisations de travail. Donc par exemple, ce matin, je vous disais le cas, j'appelle pour collecter les pommes, il y avait quelqu'un qui recherchait. Il me dit, ah ben oui, mais attendez, comment on va faire pour l'autorisation de travail? Je dis, ben c'est facile. Il vient chercher son contrat et après, heureusement, avec la DDTE, on a des bonnes relations. Et la DDTE fait dans la journée l'autorisation de travail. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Il faut que ça soit vraiment des contrats sur de court terme. Et après, là, il y a un jeune couple qui a un contrat de travail de 6 mois. Il a peut-être une embauche, mais si l'employeur joue le jeu, donc veut employer pour un CDI, il faudra qu'il paye une taxe de 800 euros. Donc quel est l'employeur qui est prêt à payer 800 euros de plus pour embaucher quelqu'un comme manœuvre sur un chantier? Donc ça, c'est vrai que donc du coup, y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, on se plaint de la mendicité, mais comment faire par rapport au travail, par rapport à l'accès au travail? C'est quand même très difficile pour les Roms.
Vous en parlez avec les autres maires de l'agglomération?
Oui, il y a eu un débat justement, c'était le 18 septembre, on avait un séminaire des maires de la majorité, et ce qui nous a permis d'en discuter pour la première fois d'ailleurs, donc j'en étais assez satisfait, et de rentrer dans le fond du débat. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, aujourd'hui on aura une aide concernant la logistique, l'aménagement justement de notre terrain d'accueil. Et au-delà, aujourd'hui, tout le monde se pose la question d'accueil de familles roms, quoi. Ils ne veulent pas de squat, ce que j'entends, hein, nous non plus. C'est pas ce qu'on a souhaité. Mais aujourd'hui, où ces familles peuvent se poser légalement, on va dire, quoi. Ils occuperont toujours des terrains illégaux, tant qu'il n'y aura pas de solution de trouver, quoi. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est peut-être de mettre un peu plus en avant l'aspect social que l'aspect sécuritaire. Bon, je pense qu'à partir de là, une réflexion peut s'entamer.
C'était Rome sur Loire, prise de son Miguel Linares de France Bleu Loire Océan, mixage Véronique Amiou, attaché d'émission Lorraine N. Planchet et Christine Gage, coordination Alexandre Hérault, un documentaire de Jean-François Marquet réalisé par Nathalie Salles sur une idée de Sophie Averti. Merci à Jean-Luc Le Drenne, maire d'Indre, à Michel Hu, policier municipal, aux bénévoles de Rome-Si, Sophie Bialet-Fernagu, Jeanne Gantier, Chantal Legris, Nicole Lehen. Merci enfin à l'atelier de création radiophonique du Grand Ouest pour son assistance.
Écoutez France Culture. L'heure du documentaire est disponible en podcast sur notre site. Demain, nous vous donnons rendez-vous à 17h avec Sou Abadi et d'étranges visiteurs venant d'Iran ou d'Afghanistan, mais sans papier, dans le musée du Louvre.